Pytania europejskie.
Kruzymiątu da Europa.
Reskrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. On l'appelle TTIP, TAFTA ou encore traité transatlantique. Trois noms pour un même projet qui doit abolir tous les obstacles entre les échanges de chaque côté de l'Atlantique. 820 millions de citoyens sont concernés. Entre les Européens et les Américains, les discussions s'intensifient, les craintes aussi. Le poulet chloré, le bœuf aux hormones vont-ils envahir les rayons de nos supermarchés en échange d'un accès au marché public américain? Au-delà des fantasmes alimentés par des négociations obscures, que nous réserve vraiment le traité transatlantique alors que partout en Europe, l'opposition au TTIP grandit, des milliers d'emplois ou la perte de notre identité européenne? Bonjour Mathias Feckel.
Bonjour Daniel Desesquelles.
Vous êtes le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, mais aussi du tourisme et des Français de l'étranger. On va rester cette fois-ci pour le commerce extérieur. Le TTIP, c'est bien sûr votre domaine de compétence, mais ce n'est pas vous qui négociez avec les Américains.
Non, les États membres donnent un mandat de négociation à l'Union européenne, à la Commission plus exactement, et donc c'est la Commission qui négocie, en lien évidemment permanent avec les États, mais autour de la table, c'est un représentant de la Commission qui est présent.
Il y a un représentant des Américains et un représentant des Européens. Et c'est Cécile Malmström, on va l'entendre tout à l'heure. Pierre Dufresne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Madariaga Collège d'Europe. Merci d'avoir fait le voyage de Bruxelles et de Bruges, parce que le Collège d'Europe, il est à Bruges. Cette fondation Madariaga, en deux mots.
C'est une boîte à idées, un lieu de débat citoyen sur l'Europe.
C'est dit, c'est très court. Maxime Bodano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Décodeur du Monde. Vous venez de publier un petit livre très pratique pour y voir plus clair sur ce traité. Docteur TTIP et Mister TAFTA, aux éditions Les Petits Matins. Un titre en référence à la nouvelle de Robert Louis Stevenson, j'imagine.
Ouais, on peut
plus connu sous...
Docteur Jekyll et Mister Hyde.
Voilà, c'est un peu ça. Alors, au fait, Mathias Bodano, pourquoi trois noms pour un même projet, sachant qu'en français, on dirait PTCI pour Partenariat Transatlantique de commerce et d'investissement?
Alors, j'ai l'impression que c'est une tradition de prendre des noms pas très facilement prononçables pour les accords commerciaux, puisque d'habitude ça intéresse pas grand monde, on peut le dire. Là, c'est ce traité transatlantique est le premier qui focalise autant l'attention du public, et donc certaines personnes, et notamment les opposants, ont décidé de prendre un nom qui est un peu plus facile à prononcer que TTIP.
Et c'est TAFTA.
Qui est TAFTA en fait, et qui fait référence à d'autres accords précédents un peu plus connus comme ACTA ou comme l'ALENA, qui est l'accord nord-américain. Et donc en fait, ces deux appellations continuent à coexister. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a plutôt les opposants qui disent TAFTA et plutôt les gens qui sont plutôt favorables ou avec des réserves ou pas, qui disent TTIP. Donc en fait, on peut un peu détecter les positions des gens en fonction de cette sémantique.
Et dans votre livre, vous dites TTIP TAFTA.
Ouais.
Alors, quel que soit son nom ou son acronyme, pour les Français, le TTIP TAFTA reste un objet mal identifié, comme l'a constaté Juliette Sauce, partie à la rencontre des Parisiens.
Le TIP, vous avez dit ?
Le TTIP.
Le TTIP, ça ne me dit pas grand-chose. Je connais le TIPP, mais pas le TTIP. Ça me parle de robe, en soi.
Moi, je pense surtout à la mode. Un truc de designer, comme ça.
Et si je vous parle du TAFTA, vous imaginez quoi d'autre ?
Là, je vois des vêtements, en fait, mais sinon, une sorte de matière, des tissus soyeux, mais je vois pas plus loin.
Franchement, rien. Du tout. Ça me parle pas.
Quelque chose de très technique. Tout terrain pour instruire.
Je pense plutôt à une marque de voiture.
Un accord secret, passé dans l'ombre, sans que personne ne puisse savoir ce qu'il se passe, sans contrôle citoyen.
Le TTIP, ça me fait penser un peu à une nouvelle marque de chewing-gum asiatique.
Ah bon, alors, Mathias Feckel, on entend à l'écoute de ces réactions le décalage entre l'importance de ces négociations, le 8e round de ces discussions vient de se dérouler il y a quelques jours à Bruxelles, et la perception qu'en ont nos concitoyens. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément en langage d'aujourd'hui. On dira à quoi sert ce traité, Mathias Feckel, à quoi il pourrait servir.
D'abord, et ça rebondit sur la question de l'appellation, il n'y a pas de traité. Aujourd'hui, il y a des négociations. Le traité, il existera peut-être un jour quand les négociations seront conclues et que l'Europe et les États-Unis se seront mis ou non d'accord sur un certain nombre de choses. L'idée de ce projet de traité tel qu'il a été à l'époque imaginé, c'est de créer un marché très important entre l'Europe et les États-Unis, qui serait le plus grand marché du monde, plus de 800 millions de citoyens potentiellement concernés.
Les 500 millions d'Européens et les 320 millions d'Américains.
Des États-Unis, et un tiers des flux commerciaux concernés, que ce soit l'agriculture, que ce soit différents secteurs de notre industrie. Ce que nous faisons au cours de ces négociations, c'est évidemment de défendre les intérêts de la France, les intérêts de l'Europe, dans le cadre de ces négociations. Ce qui fait peur, c'est d'abord le côté très opaque, extrêmement fermé, parfois secret, avec un mandat de négociation qui n'a pas été publié pendant de longs mois, malgré les demandes de la France et d'autres États. Et nous sommes parvenus, en fin d'année dernière, avec des partenaires européens, avec la présidence italienne de l'Union européenne qui s'est beaucoup impliquée aussi là-dessus, à obtenir ce qu'on appelle la déclassification du mandat de négociation. Ça veut dire qu'enfin, les gens peuvent officiellement savoir de quoi ils retournent, quels sont les points de négociation. Mais il y a énormément de progrès à faire sur cet aspect de transparence. Moi, j'y travaille beaucoup. Réformer le comité de suivi stratégique que je réunis au Quai d'Orsay, c'est ma prédécesseure Madame Bric qui l'avait mis en place, et j'ai souhaité y associer officiellement la société civile, les syndicats, les ONG, les fédérations professionnelles, pour que chacun puisse exactement savoir de quoi il est question. Et l'heure des négociations secrètes, cachées, opaques, qui se déroulent à l'abri des regards, est terminée.
Pierre Defresne, alors lorsqu'on regarde un peu plus près les échanges entre l'Europe et les États-Unis, on constate déjà que les droits de douane sont extrêmement faibles, entre 2 et 4%, c'est pas grand-chose, c'est pas les droits de douane qui sont un obstacle aux échanges aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe.
En effet, vous avez raison, en gros ils ont été éliminés, ce qui d'emblée indique que les gains à attendre de ce traité seront probablement limités, puisque la libéralisation est déjà très forte. Mais revenons sur la dénomination, parce qu'il en existe d'autres dénominations que vous avez un peu ignorées. L'une, c'est celle...
J'ai voulu simplifier.
Je vais vous simplifier encore davantage. C'est celle donnée par M. de Gucht, l'ancien commissaire au commerce, qui parlait d'un marché intérieur transatlantique. C'est comme ça qu'il appelait TTIP. Et ça, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Il s'agit d'aller au-delà de l'abaissement des tarifs, mais d'entrer dans la convergence réglementaire, normative, etc. Et Mme Clinton, qui a appelé TTIP OTAN économique, ce qui indique que le projet a aussi une dimension géopolitique. Donc, si on veut vraiment être complet et parler français, il faut parler de marché intérieur transatlantique et d'OTAN économique. C'est le fond du problème.
Autant dire un projet très ambitieux.
C'est un projet très ambitieux dont on ne voit pas très bien justement la justification. Celle qui est avancée, c'est la croissance. Et on se rend compte que dans les conditions actuelles de sous-emploi en Europe, et compte tenu du fait que la libéralisation est déjà très avancée, et enfin compte tenu du fait que l'Europe c'est 500 millions d'habitants, c'est un immense marché, mais un immense marché n'est pas piloté, n'est pas remorqué par le commerce extérieur. Le commerce extérieur est utile, il provoque en permanence des gains de productivité et de bien-être, pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas une grandeur macroéconomique significative. Ce qui ferait que l'Europe se développerait mieux, c'est une politique de croissance interne à l'Europe. Et quelque part, je dirais, l'imposture de TTIP, c'est de faire croire aux gens qu'on va trouver sur le marché américain de la croissance et des emplois, alors que on fait tout le contraire de ce qu'il faut au niveau du développement de la demande interne en Europe. Ça, à mon avis, c'est la grande distraction et la grande erreur stratégique faite par l'Europe dans TTIP.
De la difficulté de positiver ce traité transatlantique, c'est quasiment impossible de rencontrer quelqu'un qui soit un TTIP enthousiaste. À une exception près, Cécilia Malmström, la commissaire européenne en charge du commerce, la négociatrice européenne en chef face aux Américains, elle est toutefois consciente des réticences des Européens.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes et beaucoup de soucis sur ce traité, mais c'est un traité entre les plus grandes économies mondiales du monde, où nous avons beaucoup d'échanges tous les jours, mais nous pouvons faire beaucoup plus. Et je suis convaincue que pour les citoyens européens, notamment les Français, il y a beaucoup à gagner. Les Français ont des industries très compétitives, très fortes, qui pourront avoir accès au marché américain en ce qui concerne tout entre les huîtres, les fromages, le vin, les pneus, les produits médicaux, les voitures, l'ingénierie, la procuration de trains, ferrovies, etc., où le marché américain est encore trop fermé.
On a toujours l'impression que les Américains sont incroyablement protectionnistes et que les Européens sont déjà très ouverts sur le monde.
C'est vrai qu'avec notre marché commun, en Europe, nous sommes plus ouverts. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'ouvrir les marchés globaux en États-Unis, mais aussi nous négocions avec beaucoup d'autres pays du monde. Parce que nous avons besoin de plus d'opportunités, plus de travail, plus d'investissement, plus de croissance en Europe.
Comment expliquez-vous cette peur des citoyens, des Français, mais pas seulement, les Autrichiens, les Belges et d'autres encore, sont très inquiets sur la tournure que pourraient prendre ces négociations?
Mais nous avons traversé et nous sommes encore dans une crise très très grave. Beaucoup de gens souffrent et ont souffert dans cette crise, donc je pense que c'est normal d'avoir une crainte pour le futur. Mais je peux rassurer les Français et les autres que nous négocierons pas un accord qui vont baisser les standards en ce qui concerne l'alimentation, la santé, la protection des consommateurs. Tout ce qui est interdit sur le marché européen sera interdit dans le futur aussi.
La fameuse viande aux hormones, par exemple.
Ne va pas entrer.
Les OGM.
Ce qui est permis en Europe sera bien évidemment permis. Nous avons un système scientifique de dire oui ou non aux OGM. Ce qui est interdit sur le marché aujourd'hui sera interdit pour les Américains aussi. Mais ce qui est permis sera permis pour eux.
Mathias Feckel, quel va être l'impact du TTIP sur les tomates de Marmande? Alors, je cite pas les tomates de Marmande au hasard, car vous avez été, avant d'être ministre du Commerce extérieur, député de la région de Marmande. Et Marmande, c'est une ville qu'on associe aux tomates, aux tomates de très bonne qualité.
Tomates de très grande qualité qui s'exportent déjà beaucoup, comme beaucoup d'autres produits du Lot-et-Garonne, le pruneau d'Agen, mais pour les produits de nos terroirs, il y a des enjeux très importants dans les négociations commerciales internationales, mais sur la question de l'exportation, aujourd'hui, moi je suis incapable de vous dire si ce sera bien ou pas, puisqu'il n'y a pas de traité, et que toute notre position dans ces négociations est d'être offensif pour défendre au mieux les différents intérêts. Il y a un besoin, c'est de reconnaître les indications géographiques, la manière dont on produit dans notre pays et avec de l'alimentation de qualité, avec une exigence très forte en la matière, et ensuite de se battre dans les négociations pour que les choses aillent bien. C'est ça dont il est aujourd'hui question. Mais plus globalement, moi je suis tout à fait d'accord avec ceux qui aujourd'hui disent qu'il y a une insuffisance d'évaluation et de chiffrage économique précis. Moi j'ai jamais repris à mon compte aucune étude, parce que je considère qu'il n'y a pas aujourd'hui une étude, pour ou contre d'ailleurs, qui fasse référence, qui fasse foi et dont on puisse dire ça va créer tant d'emplois, ne serait-ce qu'en ordre de grandeur, ça va créer tant de croissance. Je n'y crois pas et on a besoin là-dessus d'avoir davantage d'études.
Alors Maxime Vodano, un des enjeux de ce traité, c'est évidemment les normes. Et les normes de chaque côté de l'Atlantique, elles ne sont pas les mêmes. Alors, c'est facile, on peut prendre le poulet chloré, mais c'est l'exemple un peu qui revient sans cesse, mais il est assez clair sur les modes de comportement différents. Aux États-Unis, pour assainir les poulets, on n'hésite pas à les laver avec une eau javelisée. Évidemment, en Europe, c'est un non-sens total. Alors, on sent bien que les normes, c'est un des enjeux centraux de ce TTIP.
Oui, on a dit tout à l'heure que les droits de douane étaient très bas. Donc en fait, l'enjeu, si on veut commercer plus facilement avec les États-Unis aujourd'hui, c'est de baisser ces normes, puisque c'est des barrières pour la plupart des entreprises pour envoyer leurs produits aux États-Unis ou pour les produire là-bas. Et vice-versa, les producteurs américains de poulet, qui produisent essentiellement du poulet au chlore, ne peuvent pas rentrer sur le marché européen. Elles aimeraient bien pouvoir rentrer sans devoir faire une chaîne de production séparée avec des poulets non chlorés pour le marché européen. Donc en fait, l'harmonisation, ça permet de faire des économies d'échelle en fait pour les producteurs, pour pouvoir envoyer la même chose des deux côtés de l'Atlantique, comme aujourd'hui on peut envoyer la même chose en France, en Allemagne, en Roumanie.
Alors ce qui est vrai pour le poulet, les parents pour les voitures.
Ouais, il y a des exemples qui sont beaucoup moins choquants que le poulet. Il y a la couleur des phares de voiture, par exemple, si je me trompe pas, qui doit être différente quand on est aux États-Unis ou quand on est en Europe. Si on se met dans la peau d'un constructeur automobile, c'est un cauchemar, puisque voilà, on doit produire deux couleurs de phares différentes, et donc on doit faire deux usines ou deux chaînes séparées pour pouvoir produire la même voiture qui sera homologuée en France si les feux sont rouges, et aux États-Unis s'ils sont couleur ambre.
Ou encore la notion de crash test, les tests sont pas les mêmes. Une voiture qui réussit 100% en Europe peut être très mal classée aux États-Unis.
Ouais, je crois que c'est l'exemple. Il y a la Fiat 500 qui réussit à merveille les tests côté européen et qui est considéré comme une catastrophe aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'il y a un problème dans l'évaluation justement des normes.
Alors Pierre Defraigne, harmoniser les normes, est-ce que ça aurait du bon pour développer le commerce international et éventuellement créer un peu plus d'emplois?
Je suis très réservé sur la question des normes, parce que la fonction première des normes n'est pas de protéger. le marché intérieur contre les importations. C'est d'abord de protéger le consommateur, c'est de protéger les malades, c'est de protéger l'environnement, c'est de protéger les droits des travailleurs. Donc, s'il y a par ailleurs un effet protectionniste, il est de deuxième rang. Et il faut bien séparer la fonction de protection des gens et puis de protection des producteurs. Et celle-là, en effet, est de trop. Et si on peut l'éliminer, tant mieux. Il y a tout gain. Mais à qui profitera éventuellement l'unification des normes? C'est très bien de parler d'économie d'échelle. J'enseigne ça moi-même au Collège de Bruges et ici à Sciences Po Paris. Le commerce amène des économies d'échelle. Mais qui capture le gain provoqué par les économies d'échelle? Est-ce le consommateur? S'il y a concurrence, oui. Si la concurrence est imparfaite, comme c'est le cas dans une série de secteurs stratégiques désormais en Europe, les télécommunications, le digital, l'énergie, les services financiers, les industries de défense, dans tous ces domaines-là, franchement, le bénéfice de l'économie d'échelle est capté par le producteur, c'est-à-dire par l'actionnaire. Et donc, on ne peut pas parler de ces choses sans immédiatement introduire la distribution des gains et des pertes dans le raisonnement. Et c'est toujours été un point faible de la Commission européenne, et je sais de quoi je parle, c'est de mettre l'accent sur les gains en croissance éventuelle, qui sont plus limités, je l'ai dit, que ce qu'on prétend, mais surtout d'ignorer le problème des coûts distributionnels. C'est-à-dire il y a des gagnants et des perdants. Des gagnants en termes de pays, des perdants en termes de pays, mais aussi de certains groupes sociaux. Tout ne va pas se faire au bénéfice des consommateurs, tout ne va pas se faire au bénéfice des travailleurs. Donc il faut vraiment regarder cela de manière très approfondie. Ça devrait faire partie de l'évaluation que suggère le ministre. Et là, je le suis tout à fait. Je pense que son raisonnement est absolument correct. Il faut approfondir l'évaluation des bénéfices attendus et des coûts qui seront supportés.
Alors, un des bénéfices attendus par les Européens, ce serait l'ouverture des marchés publics américains. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour un Européen, un industriel européen, de pénétrer les marchés publics américains. Et ce serait une éventuelle ouverture pour les Européens. Mathias Feckel.
Ça, c'est vrai. Les Américains souvent prônent le libéralisme, mais ont un marché extrêmement protégé, avec Buy American Act qui n'a encore pas arrangé les choses, contre des marchés européens qui, eux, sont beaucoup plus ouverts. Et il y a un enjeu pour nos entreprises, y compris pour nos PME, de pouvoir avoir davantage accès au marché américain. C'est un des enjeux clés de cette négociation, étant entendu qu'il faut que l'accès au marché public puisse se faire évidemment au niveau national, mais aussi au niveau fédéral, au niveau des différents niveaux de collectivité, parce que sinon, ce sera théorique, et en réalité, chacun pourra d'ailleurs détricoter les choses.
C'est l'idée que Washington peut donner son feu vert, mais l'Oregon peut freiner, par exemple, une initiative de l'État fédéral.
Dans un État fédéral, avec comme les États-Unis, avec un contrôle en plus très rigoureux de la Cour suprême sur qui est compétent pour faire quoi, il est tout à fait possible d'imaginer qu'il y ait un accord de principe pour dire on est d'accord sur ça, ça et ça, et qu'ensuite ça ne devienne pas une réalité. Il y a eu des négociations récemment avec le Canada qui se sont conclues en fin d'année dernière, où là, pour le coup, il y a des ouvertures très importantes des marchés publics canadiens pour nos entreprises, et le Canada s'est engagé dans le courant des négociations à ce que les différents niveaux de collectivités, les provinces, tous les niveaux d'administration locale soient partie prenante et que ça engage vraiment tout le monde. Donc là, on peut se dire qu'il est vraiment à peu près certain que ça soit une réalité. Dans la négociation avec les Américains, c'est un point de vigilance extrêmement fort que cette question des marchés publics soit traitée comme il faut et que nos entreprises puissent demain offrir leur savoir-faire, leurs innovations, leurs produits aux différents niveaux de collectivités américains.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos avant de retrouver nos invités et de percevoir encore un peu mieux les enjeux du TTIP, le fameux traité transatlantique. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. On l'appelle TTIP, TAFTA ou encore traité transatlantique. Trois noms pour un même projet qui doit abolir tous les obstacles entre les échanges de chaque côté de l'Atlantique. 820 millions de citoyens sont concernés. Entre les Européens et les Américains, les discussions s'intensifient, les craintes aussi. Au-delà des fantasmes alimentés par des négociations obscures, que nous réserve vraiment le traité transatlantique Europe-États-Unis, alors que partout en Europe, l'opposition au TTIP grandit, des milliers d'emplois ou la perte de notre identité européenne. Je vous représente rapidement nos invités. Mathias Seckel, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et puis aussi du tourisme et des Français à l'étranger. Pierre Defraigne, directeur exécutif de la Fondation Madariaga Collège d'Europe de Bruges. Et Maxime Vaudano, journaliste au Décodeur du Monde, qui vient de publier un petit livre très pratique qui permet d'y voir un peu plus clair. Docteur TTIP et Mister TAFTA aux éditions Les Petits Matins. Le TTIP ou le traité transatlantique, c'est bien sûr des négociations avec de chaque côté des bataillons d'experts, mais c'est de plus en plus une bataille médiatique et citoyenne. Témoin ces vidéos que l'on peut voir sur Internet. En voici le son. La première très conte de fées a été concoctée par la Commission européenne. La seconde, beaucoup plus militante, provient de l'Observatoire de l'Europe industrielle.
Les consommateurs européens y gagneront sur les prix et sur le choix. Ce sera aussi une bonne nouvelle pour les entreprises. Mais il n'y aura pas que les bonnes affaires ou une possible stimulation de l'économie et de l'emploi en Europe. Les bénéfices seront plus largement partagés dans le monde. Cet accord nous permettra de définir de nouvelles règles pour une économie mondiale meilleure et plus juste et un partenariat plus fort avec les États-Unis.
Si une entreprise américaine, disons un producteur de poulet chloré, n'est pas d'accord avec une proposition, la Commission sera obligée de la rejeter en raison de son effet délétère sur le commerce. Les multinationales pourront même proposer de nouvelles lois. La coopération réglementaire met le profit avant les citoyens et renonce à certains fondements démocratiques.
Mathias Seckel, on comprend que le débat ne peut que s'intensifier. On en est au début de ces négociations. Ça a démarré en 2013, hein, c'est ça, par une signature commune entre Barack Obama d'un côté et puis à l'époque le commissaire Barroso. Normalement, ces discussions doivent s'éterniser combien de temps ?
Dans les négociations, ce qui est important, c'est d'aboutir à un bon accord. Et donc moi, beaucoup plus que de dire il faut arriver à échéance à tel moment et à ce moment il faut être d'accord sur tout, je dis il faut poser les sujets sur la table, il faut que chacun puisse défendre ce qu'il souhaite défendre, et au moment où un accord est possible, il faut le faire. Mais fixer une date comme ça aujourd'hui, à mon avis, ne correspond pas du tout à la réalité des situations.
Alors pour Barack
c'est
Obama,
pas mon état d'esprit.
Il aimerait bien que ce traité soit signé avant la fin de son mandat, c'est donc 2016. Est-ce que François Hollande aimerait que ce traité soit signé à la fin du sien, c'est-à-dire 2017
Le président de la République se projette pas en fonction de ça. Il défend les intérêts de la France dans les négociations. Et donc, ce qui est important, c'est que l'accord puisse être conclu au moment où il est prêt à l'aide, pardon d'être un peu dans la palissade, mais fixer maintenant une échéance en disant on va être à ce moment-là d'accord sur tout, ça n'a pas de sens. Et donc les autorités françaises, dans ces négociations, elles ont à cœur de défendre nos secteurs économiques, de défendre un certain nombre de conceptions que nous avons sur le service public, sur la santé, sur l'énergie, sur l'alimentation, sur la culture, bon, etc., etc., pour faire avancer les choses. C'est comme ça qu'on rentre dans une négociation. On rentre pas dans une négociation en s'excusant d'exister, en s'excusant d'avoir des idées, en s'excusant d'avoir des valeurs, en s'excusant d'avoir des intérêts. On rentre en ayant tout ça et en ayant à cœur de le défendre.
Donc des négociations qui peuvent s'éterniser un certain temps.
Si vous voulez, la formule est belle en tout cas.
Alors un des gros différends de ce traité transatlantique, ce seront les tribunaux arbitraux qui seront compétents pour régler les différends entre les investisseurs d'un côté, c'est-à-dire les entreprises et souvent les multinationales, et les États de l'autre. En anglais, l'acronyme c'est ISDS. Qu'est-ce que c'est que ces tribunaux arbitraux, Maxime Vaudano ?
À l'origine, l'idée c'était de protéger les investisseurs occidentaux essentiellement qui allaient investir dans des pays en développement dont les systèmes judiciaires n'étaient pas forcément très appréciés, et donc de pouvoir avoir un mécanisme si jamais ces entreprises-là étaient victimes d'expropriation. Donc c'était une sorte de garantie pour ces entreprises-là pour investir sereinement dans des pays. Et en fait, ça s'est développé entre pays développés. Et là, aujourd'hui, on a les deux plus gros blocs démocratiques du monde qui envisagent de mettre en place un mécanisme comme ça. Donc, ça pose question de savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un mécanisme qui, à l'origine, est pensé pour une relation Nord-Sud entre deux systèmes judiciaires qui sont globalement fonctionnels. Est-ce qu'on a besoin de mettre en place une justice parallèle, en quelque sorte, ou pas, entre les États-Unis et l'Europe ?
Alors les associations militantes ne sont pas les seules à s'interroger sur les tribunaux arbitraux, ces fameux ISDS. ISDS, ça veut dire quoi d'ailleurs, Massimo Adano?
Mécanisme de règlement des différends investisseurs-État en anglais.
En anglais. Merci de nous l'avoir dit en français. On va faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Jerry Philly. Sur le site de courrierinternational.com, on peut lire un article du très sérieux quotidien britannique Financial Times.
Oui, effectivement Daniel, c'est un chroniqueur très connu, John Kay, qui exprime en tout cas quelques réserves sur le traité transatlantique. D'abord, il nous rappelle que en Grande-Bretagne, bon, en Europe, il y a des millions de signatures contre le traité transatlantique qui, pour l'instant, a été assez ignoré par la Commission européenne, mais qu'en Grande-Bretagne, bah, trois quarts des sondés estiment que cet accord serait néfaste pour le pays, et notamment, bien sûr, pour le service, le NHS, le service de santé britannique. Mais qu'est-ce que c'est ce traité? Bah, on va, en fait, exploser les barrières douanières partout entre la Californie et la Croatie. L'auteur dit d'instinct, j'ai envie d'approuver, mais il y a quelques problèmes. Bon, déjà, les négociations, on sait tous qu'il y a un grand manque de transparence dans les négociations, mais pour l'auteur, le nœud du problème qui suscite ou qui cristallise en fait les inquiétudes des Européens, c'est l'incorporation dans le traité d'un mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États. L'acronyme en anglais, c'est ISDS. Depuis les années 80, cet instrument est devenu la norme dans les accords commerciaux conclus entre les États-Unis et des pays moins développés. Dans le cadre d'un mécanisme ISDS, les entreprises qui s'estiment laissées par des États partis au traité peuvent faire des poursuites dans un tribunal d'arbitrage international contre ces États. Donc l'ISDS s'est intégré en fait dans l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, entre les États-Unis, Mexique et le Canada. Et on a vu ce mécanisme en marche ces 10 dernières années.
Il y a notamment l'exemple de Philip Morris, hein, le cigarettier.
Et exactement, ils se sont appuyés sur ces accords entre Hong Kong et Australie pour dénoncer un encadrement de la publicité sur le tabac comme une atteinte à sa propriété. Voilà donc l'auteur John Kay de cet article dit avis aux négociateurs, ils auraient beaucoup plus de facilité à vendre le TTIP à une opinion européenne sceptique s'ils renonçaient à l'ESDS, ce mécanisme qui fâche.
Qui fâche en effet, qui risque de fâcher encore un peu plus. Pierre Defresne, est-ce que c'est imaginable d'un point de vue européen d'avoir en gros une juridiction privée au-dessus des juridictions nationales et des États?
Moi je suis très surpris et déçu que les grands universitaires européens qui se tentent de choses intéressantes dans le droit ne viennent pas à la rescousse des adversaires de ces tribunaux arbitraux, parce que la question est vraiment celle de l'intégrité de notre ordre constitutionnel. Est-ce que nous admettons l'existence d'une éducation à deux vitesses? Non. D'une santé à deux vitesses? Non. Pourquoi nous accepterions une justice à deux vitesses? Parce qu'ici, avec les tribunaux arbitraux, nous donnons à des entreprises étrangères en France le droit d'attaquer le gouvernement français, droit que nous ne reconnaissons pas aux entreprises françaises en France. Donc c'est déjà une première différenciation. Mais dans la pratique, et surtout, ce droit théoriquement ouvert à toute entreprise étrangère va être surtout utilisé par les grandes entreprises parce que les PME sont incapables de s'offrir les services des avocats extraordinairement chers qui sont nécessaires pour gagner devant un tribunal arbitral.
Pierre Dufresne, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est une justice qui serait au service des multinationales.
Absolument, je pense que le mot n'est pas trop fort. Et c'est en cela que, pour ma part, j'ai une réserve sur le traité avec le Canada. Je partage l'avis du ministre, cet accord est un bon accord. Mais il y a, malheureusement, dans cet accord, la clause arbitrale. Il faut l'extraire à tout prix, sans quoi ce sera un précédent pour l'accord avec les États-Unis, et beaucoup des protagonistes du côté TTIP veulent précisément l'approbation telle quelle du CETA pour créer le précédent.
Est-ce qu'on peut admettre, d'un point de vue européen, ces tribunaux arbitraux qui seraient au-dessus de la juridiction des États? Mathias Seckel.
Maxime Vaudano a rappelé l'historique de ces mécanismes, mais au cours des dernières années, l'arbitrage a été complètement dévoyé, puisqu'il permet aujourd'hui à des entreprises, notamment des multinationales, d'attaquer non plus des décisions injustes dont ils feraient l'objet dans tel ou tel pays, mais de remettre en cause des choix politiques des choix démocratiques décidés par des peuples, décidés par des parlements. Ça, c'est inacceptable. Et la France n'acceptera jamais que des multinationales puissent saisir des juridictions privées pour venir remettre en cause des choix démocratiques. Ça, c'est une position de principe extrêmement claire, extrêmement ferme et permanente sur ce sujet. Alors, il y a une consultation qui a été organisée par la Commission européenne, dont les résultats ont été publiés ces derniers jours. 150 000 réponses à travers l'Union européenne. C'est la plus importante consultation qui ait jamais eu lieu. Et sur un sujet aussi technique, excusez-moi, mais il faut totalement prendre en compte l'importance de cette mobilisation. Donc, depuis que ces résultats sont rendus publics, une nouvelle phase s'est ouverte, qui est maintenant une phase d'action. Moi, dès le lendemain de la publication du rapport de la Commission, je me suis rendu à Berlin pour travailler avec Sigmar Gabriel, pour travailler avec mon homologue Matthias Machnick sur des pistes de sortie. Parce que nous sommes d'accord avec les Allemands et aussi avec d'autres Européens sur les principes, à savoir qu'une justice privée saisie par des multinationales ne peut pas remettre en cause des choix démocratiques. Et donc, il faut sortir de cela, travailler sur les mécanismes de règlement des différends du 21e siècle, qui prennent en compte l'exigence démocratique, l'exigence de transparence, l'exigence d'éthique aussi, parce que quand vous regardez aujourd'hui ce que c'est que l'arbitrage concrètement, et ça c'est des praticiens de l'arbitrage qui vous le disent quand vous discutez avec eux, vous pouvez un jour être arbitre et le lendemain être avocat dans une affaire où parfois les mêmes entreprises sont parties prenantes. C'est acceptable dans aucune juridiction. Donc il faut vraiment inventer de nouveaux modes de règlement. Moi, j'ai émis l'idée qui se réalisera pas du jour au lendemain, mais qui, à mon avis, est une perspective qu'il faut approfondir, sur laquelle il faut travailler, d'une cour permanente, internationale, de règlement des différends, qui permettent à la fois de l'avoir de la sécurité juridique, de permettre aux entreprises de se retourner vers une instance pour pouvoir faire valoir leurs droits, mais où il y ait de la régulation, où ce soit une juridiction publique qui ait le dernier mot, et qui puissent intervenir en la matière. En tout cas, la situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas acceptable, et ça vaut dans le traité avec le Canada, comme ça vaut dans les négociations avec les États-Unis, non pas parce qu'il s'agit de tel ou tel pays, et le Canada et les États-Unis sont des partenaires commerciaux très importants pour nous, et sont à l'évidence des pays amis. Mais là, ce qui est en question, ce qui est en cause, ce sont des principes fondamentaux. Elisabeth Guigou disait l'autre jour à l'Assemblée nationale des principes philosophiques, mais vraiment au sens de ce qui fonde notre démocratie. Et là-dessus, c'est le rôle de la France, comme c'est le rôle de l'Europe, de proposer des choses pour en sortir par le haut, et en tout cas certainement pas de se résigner à l'existant, ni de venir ratifier des choses simplement parce que il y a un processus qui s'est enclenché, parce qu'il y a une routine qui fait que maintenant il faudrait négocier.
Alors Maxime Bonanno, l'idée que par exemple un cigarettier puisse remettre en cause une politique de santé d'un État, c'est en gros ce qui s'est passé en Australie, hein, où je crois que c'est Philip Morris, hein, qui a empêché le gouvernement australien d'avoir ce qu'on appelle des paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire sans la publicité, en l'encouragement à fumer. C'est évidemment une remise en cause importante. Ce que vient de dire Mathias Feckel, est-ce que ça vous rassure sur la façon dont s'engage un peu cette négociation?
Alors, simplement pour revenir sur le cas Philip Morris, donc ce cigarettier qui a attaqué l'Australie, en fait, il y a une première phase dans les années 90 où une autre entreprise de tabac a menacé le gouvernement australien de faire un procès, ce type de procès, en fait, devant l'ISDS. Et donc, ça a conduit le gouvernement australien à renoncer à légiférer. Donc en fait, c'est la peur qui l'a conduit à renoncer. Donc ça, c'est un des gros problèmes avec l'ISDS. C'est pas forcément qu'on arrive à une décision qui condamne l'État, c'est qu'en fait, on renonce par peur à légiférer. Et ils ont
En termes journalistiques, on appellerait ça l'autocensure.
Ouais, voilà. On appelle ça le chilling effect en anglais. Donc voilà. Et en fait, les cigarettiers sont revenus à la charge il y a 2-3 ans quand le gouvernement australien a décidé de relancer cette procédure là, cette réforme des paquets neutres. Et là, il a lancé un cas devant un tribunal arbitral, et par contre il faut rester prudent puisque la décision n'a pas encore été rendue, mais c'est un des gros problèmes, c'est en fait que les arbitres qui vont décider si un État va être condamné ou pas ont une grosse marge d'interprétation sur les concepts qui sont en jeu. Donc ce que disait Mathias Feckel sur le fait d'aller vers quelque chose de plus régulé avec une cour permanente d'arbitrage, ça peut être intéressant comme piste puisque voilà, ça sera plus encadré, il y aura des arbitres qu'on pourra connaître, qu'on pourra contrôler, fait, mais pour moi ça enlève pas le l'autre problème qui est que les textes sur lesquels se basent les arbitres, qui sont les traités en question, donc le futur traité transatlantique par exemple, ont des concepts qui sont un peu flous, comme l'expropriation indirecte des intérêts d'une entreprise. Et donc en fait ça peut être interprété de façon très très extensive, et c'est ça qui crée des décisions qui sont hallucinantes du point de vue démocratique.
Alors Mathias, sur lequel vous voulez dire d'un mot.
Oui, c'est très juste. Et il faut clarifier ces concepts-là, et ça fait partie de tout ce qui est sur la table. Parce que quand il y a des choses qui sont pas précises juridiquement, ça peut évidemment donner des marges d'interprétation très excessives. Et puis il faut aussi rétablir l'équilibre, c'est le moins qu'on puisse exiger, entre ces entreprises et les États. Aujourd'hui, un État n'a pas de moyen de se retourner contre une entreprise qui, de manière abusive, porterait plainte contre lui. Et il faut que demain...
Rétablir l'équilibre, au minimum.
Mais au minimum, et que des entreprises qui font des recours abusifs puissent être lourdement sanctionnées. Il faut que ce soit dissuasif et que les gens réfléchissent à deux fois, parce que effectivement, au final, c'est le contribuable qui paye les milliards d'euros qui, peut-être demain, seront mis à la charge des États. Et donc, il faut là-dessus revoir les principes, revoir les concepts, revoir les procédures, revoir les outils.
Pierre Desfrênes, au fur et à mesure que cette émission, on avance dans cette émission, on sent bien que les enjeux sont considérables. Il y a aussi un travail, je m'adresse à vous parce que vous êtes bruxellois, un travail extraordinairement intense des lobbies à Bruxelles, et les lobbies à Bruxelles, ils pullulent.
Oui, on n'en est pas encore au stade de corporate America, comme disent nos amis américains, où sont les lobbies qui dominent le Congrès. Dieu merci, Bruxelles échappe à cette dérive. Néanmoins, l'influence est très forte. Mais cela étant, le ministre vient d'ouvrir une piste, je crois, fondamentale, ce qui est d'aller au-delà d'un accord bilatéral et de penser à une cour qui est internationale, qui est multilatérale, donc qui renforce le dispositif de gouvernance de la globalisation, ce qui est un point critique. Mais il faut penser à tous les points critiques, et je pense qu'on peut progresser dans ce sens-là si dans le même temps on progresse par exemple sur le chantier de l'optimisation fiscale. Les deux, le parallèle doit être fait entre les deux. Ce qui est intolérable dans la démarche bilatérale États-Unis-Europe, c'est qu'on laisse tomber une série de questions qui maintenant sont au sommet de l'agenda multilatéral. On réglera la question de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale et de l'optimisation fiscale qu'à travers un accord multilatéral. Donc si on arrivait à plurilatéraliser, je dirais, TTIP, y compris dans cette cour internationale d'arbitrage, mais avec l'élément fiscal, on arriverait à mieux équilibrer les gains et les pertes dont je parlais au début. Ça, c'est une vision politique d'ensemble dont jusqu'ici, hélas, l'Union européenne n'a pas été capable de l'élaborer.
Alors, vous avez écrit un papier qui a été publié dans La Libre Belgique, où vous résumez un petit peu ce que vous venez de dire. Entre le TTIP, le TTIP et l'Europe, il faut choisir.
Oui, bien sûr. Je pense que d'abord, l'Europe a tort de s'engager dans une négociation du faible au fort. Vous savez, quand on fait un accord avec le Canada, c'est 35 millions d'habitants, 10 fois moins que l'Amérique.
Là, on inverse.
Ici, nous sommes faibles. Pas parce que nous sommes moins nombreux, nous sommes plus nombreux. Nous sommes aussi riches que l'Amérique, mais nous sommes divisés. Je crois que ça, c'est la vraie différence. L'Amérique a une politique énergétique, nous en avons plusieurs. La politique monétaire est unifiée aux États-Unis, nous avons 8 monnaies. Dans une série de secteurs stratégiques, le marché américain est unifié. Chez nous, il est divisé. Et notamment dans les secteurs les plus avancés de pointe où l'Europe doit se réindustrialiser. Et tout cela, on fait bonne mesure. On dit voilà, comme nous avons d'excellents négociateurs, ce qui est rigoureusement vrai, nous allons surmonter cet obstacle de la division de l'Europe face à l'unité des États-Unis. Moi, je pense que honnêtement, c'est se payer de mots, et je crois que l'Europe ferait beaucoup mieux aujourd'hui de réaliser son unité, d'approfondir la gouvernance de l'euro, de régler la question du surendettement qui bloque le retour à la croissance. Ça, c'est le vrai agenda européen. Et puis un jour, entrer dans une négociation plus vaste qu'avec les États-Unis, avec d'autres protagonistes aussi
évidemment
importants.
Évidemment la Chine.
Bien sûr, la Chine.
Et puis le monde Asie-Pacifique dans son ensemble.
Vous venez de dire terriblement important tout à l'heure, vous aviez trouvé la formule d'une négociation qui se poursuivait indéfiniment, mais il y a en fait une échéance. C'est la négociation que l'Amérique mène avec l'Asie.
De l'autre côté, de l'autre océan.
En laissant la Chine de côté. Donc, c'est l'idée de faire un partenariat transpacifique qui, d'après M. Froman, qui est le négociateur américain, pourrait se terminer d'ici quelques mois. Et dès lors que c'est le cas, l'Europe va se trouver, non pas en face de l'Amérique, mais en face du partenariat transpacifique qui aura élaboré des normes communes, qui aura fait de la convergence réglementaire. Et dès lors, les Américains vont nous dire dans le dialogue bilatéral avec eux, vous savez, c'est très difficile pour nous de rencontrer des demandes européennes puisque nous sommes tenus par l'accord que nous avons déjà passé avec nos partenaires pacifiques. Ça, c'est le piège qui est tout à fait évident et un piège dangereux pour l'Europe dans cette affaire. Un de plus.
D'un mot, ce piège réel, Mathias Sekel ?
Le piège, c'est celui de l'essoufflement du multilatéralisme. Et la France a toujours été favorable, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'OMC, que ce soit dans l'ensemble des forums internationaux, à ce que la négociation internationale se fasse au niveau le plus large possible. Et donc, à l'évidence, quand on bascule vers des négociations bilatérales, c'est d'abord un constat d'échec. Celui de l'échec de négociations qui se font au plus grand nombre et où peuvent être posées entre le plus possible de pays un certain nombre d'exigences. Ça, c'est une évidence. La deuxième évidence, c'est que la politique commerciale n'est pas une fin en soi. Elle doit s'inscrire dans un agenda politique volontariste, avec une volonté d'avoir des politiques de croissance, d'avoir des politiques de développement durable, tout ce qui doit être au cœur de l'Europe. Et le moins qu'on puisse dire, et que la précédente commission a totalement loupé cet agenda-là, que le volontarisme n'a pas été au rendez-vous, et que nous devons revenir vers une politique où la politique commerciale, la politique économique sont mis au service d'objectifs politiques définis en commun et qui ont toujours été le pendant du rêve européen. Il faut qu'on soit capable ensemble de retourner vers ça. C'est un des sens de nos démarches avec l'Allemagne, avec d'autres partenaires européens qui ressentent le même besoin aujourd'hui et qui est d'ailleurs largement partagé. Et faute de cela, à l'évidence, il y aura des négociations techniques qui peuvent durer, qui peuvent avancer ou pas, mais qui ne seront pas au service d'un projet.
Maximo Bonanno, est-ce qu'on n'a pas là deux visions du monde qui s'affrontent entre les États-Unis et puis les Européens ?
Sur plusieurs plans, oui. Vous avez les États-Unis qui assument clairement le fait que les deux partenariats qui sont en train de négocier, donc le partenariat transpacifique dont on parlait à l'instant et le partenariat transatlantique avec l'Europe, ça serait une sorte de mécanisme pour endiguer la montée en puissance des émergents et notamment de la Chine. Au côté européen, on refuse un petit peu d'avoir cette thèse-là. On dit non, c'est pas un OTAN économique, comme vous disiez au début de l'émission. On refuse de se mettre contre la Chine, d'apparaître comme un ennemi, puisqu'on veut ménager un peu la chèvre et le chou. Mais c'est vrai que les États-Unis sont clairement dans une logique de créer des blocs, les blocs d'amis, et de se mettre avec leurs amis sur la scène mondiale pour pouvoir négocier plus facilement, puisque maintenant, dans le cadre multilatéral dont on parlait, c'est-à-dire l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, ils n'arrivent plus à imposer leur agenda puisqu'il y a la Chine qui est rentrée au début des années 2000 et qui refuse de céder aux exigences des Américains, ce qui peut paraître logique.
Pierre Lefrenne, c'est qui pose la question, la mondialisation jusqu'où et pourquoi faire ?
La mondialisation est un apport remarquable à l'intégration du monde. Je veux dire que la convergence nord-sud à laquelle nous assistons depuis 20 ans est en fait le produit de la mondialisation. L'émergence de ces nouveaux pays et même le démarrage de l'Afrique est le produit de la mondialisation. En soi, la mondialisation est une excellente chose si elle est gouvernée. Si, comme le disait le ministre, on rétablit l'équilibre entre le marché et le politique. Et on ne peut le faire qu'au niveau européen d'abord, et multilatéral ensuite. Et toutes ces manœuvres de diversion aboutissent en fait à fragmenter l'économie mondiale, ce qui est un non-sens, mais en plus à générer des blocs, ce qui, d'un point de vue géopolitique, est porteur de tensions qui ne vont peut-être déborder le domaine commercial et devenir des tensions stratégiques. La Chine, avec son environnement, ne construit pas seulement une zone d'intégration commerciale, elle a des accords monétaires très fort depuis la crise de 97-98, et c'est clair que son dessein, si on la pousse dans cette direction-là, est de constituer un bloc commercial et monétaire.
Et politique.
Et bien sûr.
Avec une vision politique qui n'est pas forcément celle que nous partageons ici en Europe.
Oui, absolument, et je crois que l'enjeu de la gouvernance multilatérale, c'est de faire converger des modèles de développement vers des, un état compatible.
Alors, Mathieu Segal, vous allez voir le mot de la fin. On sent bien que ces négociations sont extrêmement importantes, qu'elles sont un peu dans l'opacité, que c'est très difficile d'y voir un peu clair, peut-être, même peut-être pour vous d'ailleurs. Mais à la fin, il y aura quand même un processus démocratique. Il faudra que cet accord, si il aboutit un jour, soit ratifié d'abord par le Parlement européen et puis par les 28 parlements nationaux. On n'est pas au bout de l'histoire.
C'est moins qu'on puisse dire. Besoin de transparence absolument. C'est le sens de mon action en associant la société civile à la conduite de ces négociations, en les réunissant régulièrement au Quai d'Orsay. On a construit sur la page diplomatie.gouv.fr un site spécialement dédié à ces négociations qui va être encore complété, enrichi pour que les gens aient accès aux documents. C'est très important parce que il faut que la publication du mandat de négociation ne soit pas la fin de la transparence. Non, ça doit être le début d'un processus de transparence. Et puis il faut remettre de la démocratie dans tout ça. Association de la société civile, association des parlements, qui auront le dernier mot sur la ratification. C'est ce qu'on appelle un accord mixte, ce qui veut dire qu'à la fois les instances européennes devront le ratifier, et chaque État, selon les procédures qui sont les siennes, devra aussi le ratifier.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Muni, avec la complicité de Maria Afonso et de Juliette Sauce. Pour réécouter cette émission, RFI.fr ou les applications gratuites smartphone et tablette de RFI. Sur la page de l'émission, plein de choses vous attendent, et notamment les références de nos invités, sans oublier les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Bruxelles, Washington, ailleurs encore dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.